Bienvenue à ce nouveau petit cours d'histoire mondiale. Avec un peu de retard, je m'en excuse. Lorsqu'on est enseignant ou enseignante dans les mois du printemps, c'est toujours très, très, très chargé. Et quand on sort des livres en même temps aussi, c'est sûr que mon horaire était peut-être un petit peu plus costaud que d'habitude. Donc, désolée pour le retard. Mais je vous promets qu'en avril, il y aura deux épisodes, assurément. Et donc, aujourd'hui, nous nous intéressons à une des époques de l'Égypte pharaonique les moins bien connues du grand public, et c'est la raison pour laquelle je veux y mettre un peu d'énergie, c'est l'époque du Moyen Empire. Elle marque pourtant un tournant, je vous dirais, le majeur dans l'histoire égyptienne, mais comme les pharaons sont moins connus, on devrait plutôt dire ici moins popularisés, ben, les découvertes archéologiques liées à cette époque attirent moins l'attention et par conséquent ben, sont moins récupérées par les grands médias. Alors si vous dites « Ah, oh, Moyen Empire, ça ne me dit rien, je ne suis pas certain ou certaine de quel pharaon régnait à cette époque-là », c'est tout à fait normal pour justement cette raison, le manque de médiatisation. En fait, c'est un peu comme une boucle sans fin. On en parle peu dans les médias, et là, quand il y a des découvertes archéologiques, on en parle peu aussi, les gens sont moins au courant, et les gens s'y intéressent moins parce qu'ils sont moins au courant. Donc, vous voyez un petit peu la boucle qui se crée pour cette période, pourtant, comme je vous disais, très, très importante. Parce que le Moyen Empire, ben on voit en fait la consolidation de l'État pharaonique, on voit une augmentation du territoire de l'Égypte, et surtout, une explosion des arts et de la littérature. Alors, est-ce que vous êtes prêts à découvrir cette ère fabuleuse? C'est parti! Commençons par nous replacer dans le temps, parce que la dernière fois qu'on a parlé d'une époque de l'Égypte ancienne, on a parlé de l'Ancien Empire et de ce qu'on appelait aussi la première période intermédiaire. Alors, lorsqu'on parle du Moyen Empire, on parle des années 2055-1650 avant notre ère, et donc des 11e à la 13e dynastie, si jamais les dynasties de pharaons vous intéressent davantage. Alors, pour vous replacer un peu, la première période intermédiaire, eh bien, on avait vu en fait un effondrement du système pharaonique parce qu'il y avait eu des problèmes de gestion, entre autres, liés à une accélération de la désertification, des problèmes de crue du Nil, des problèmes agricoles. Et on avait vu une montée, en fait, du pouvoir des prêtres et des nomarques. Les nomarques sont ces, on va dire, scribes, généralement, donc des gens qui ont les connaissances en écriture, entre autres, qui vont gérer les districts administratifs de l'Égypte, que sont les nomes. Et donc, à la fin de la première période intermédiaire, on a vraiment des luttes entre la haute, la basse Égypte, entre des villes comme Thèbes, qui n'est pas encore la capitale de l'Égypte, mais qui va le devenir au Moyen Empire, et une des villes, entre autres, comme plus dans le nord, Hiéracolis. Et on voit en fait la montée du pouvoir de certains prêtres qui ont été très influents. Un qu'on connaît grâce au texte s'appelle Intef, et lui gérait donc la région thébaine. Et lui, il a essayé en fait de mettre des lois en place qui ont aidé à pacifier le sud de l'Égypte. Et là, ses successeurs vont commencer à remonter vers le nord, et on va commencer à voir des personnages de plus en plus influents, qui vont même se redonner peut-être le titre de roi. Et lentement, mais sûrement, eh bien, on va voir des forces armées. L'Égypte est peu militarisée encore, mais on commence à avoir des forces armées néanmoins. Faut penser à des armées très simples, pas vraiment d'armure. On utilise des bâtons, des haches essentiellement pour se battre à ce moment-là, un peu d'arc et de flèches, mais ça semble quand même encore limité. Mais donc, il y a des affrontements et on va voir en fait un personnage se démarquer dans cette histoire-là, celui qui va amorcer le début d'une nouvelle ère où on va reconsolider le pouvoir pharaonique. Alors, il s'appelle Mentouhotep II et c'est lui qui apporte ce qu'on peut appeler l'unité perdue pendant la première période intermédiaire, et on peut donc entrer dans une nouvelle ère. Et le Moyen Empire, ce qui est intéressant avec cette époque-là, c'est qu'on a beaucoup plus de sources de documentation, notamment écrites, que pour l'Ancien Empire, où, bon, on est dans les débuts de l'écriture hiéroglyphique, on écrit moins, bon, il y a moins de papyrus aussi qui ont survécu jusqu'à nous, ce qui est peut-être un peu plus intéressant pour l'époque qui nous intéresse, c'est que là, on en a davantage. Parce que les pharaons vont laisser quand même beaucoup de statues de temples avec des inscriptions, et les élites aussi, bureaucratiques, entre autres, autour du pharaon, vont laisser des tombeaux avec des inscriptions qui vont relater leurs actions au cours de leur vie. On a des rapports d'expédition sur pierre, parce qu'on va faire des expéditions commerciales. On a aussi même des mentions, en fait, d'expéditions intéressantes, même sur des murs de temples. Et comme on va, comme je vous le disais en début d'épisode, étendre le territoire de l'Égypte, mais on commence à voir aussi des textes qui sont dans des zones géographiques plus étendues, donc dans le désert occidental, dans le Sinaï, mais aussi dans le sud de l'Égypte, en Nubie. Pour l'ancienne Nubie, pensez essentiellement Éthiopie-Soudan, pour vous placer un petit peu géographiquement avec nos termes peut-être plus contemporains. Et on commence à avoir des rapports administratifs sur papyrus. Donc ça, c'est toujours intéressant. Mais ce qu'on a surtout, c'est de la littérature, parce que c'est une époque où on va commencer à écrire sur plein de sujets et ces textes-là, ont réussi à survivre jusqu'à nous. On remercie en fait le climat très aride et très sec de l'Égypte. Donc, on a pour le Moyen-Empire des traités de médecine, des textes qui sont plus axés sur la morale et l'éthique. On va avoir des contes, on a des textes religieux et on a même des textes d'histoire. Alors, ça nous aide en fait à mieux comprendre cette époque mitoyenne dans les grandes ères de l'Égypte ancienne. Parce que, ben voilà, le Moyen-Empire est vraiment associé à une forme de révolution culturelle parce que, bon, on a une richesse de documents maintenant, on a même des chronologies, même si elles ne sont pas parfaites, qui nous aident à nous replacer dans le temps. Et on apprend des choses sur à peu près plein, presque tout, en fait, je voudrais, les aspects de la société égyptienne grâce à cette abondance de littérature. Alors ça, c'est quand même très, très intéressant. Alors, ce que je vous propose pour vous aider à entrer dans cette époque, c'est dans un premier temps faire le côté un petit peu plus politique, administratif, économique même du Moyen-Empire et dans un deuxième temps, nous intéresser davantage à l'aspect social, culturel. Parce que faire les deux en même temps, des fois, ça peut devenir un peu brouillon et ça peut être difficile en fait de suivre ou de bien comprendre. Donc voici la division que je vous propose. Alors si on commence à s'intéresser au début du Moyen-Empire, faut vraiment penser à ce premier grand pharaon qui vient vraiment rétablir la paix et la stabilité en Égypte à la fin de la première période intermédiaire. Il s'appelle Mentouhotep II. Je vous donne ces dates juste pour vous aider à vous situer pour commencer, mais je nommerai pas toujours les chronologies de tous les pharaons, mais on parle d'un règne là, entre 2055 et 2002 quand même avant notre ère. Et il va, dans la documentation papyrologique entre autres, et surtout dans les inscriptions hiéroglyphiques qu'on va voir dans les temples un peu partout, être célébré comme le réunificateur. Donc c'est un beau terme, presque de film hollywoodien, parce que, bon, c'est un homme qui a gagné des victoires militaires, mais il a aussi réussi à, par des traités d'annexion et de fidélisation, à ramener donc cette unité entre la Haute et la Basse Égypte. Et il arrive sur le trône, on pense que c'est à peu près vers l'âge de 20 ans, c'est sûr que c'est difficile à dire hors de tout doute, mais des textes nous en parlent comme étant celui qui arrive sur le trône en étant un être divin de la couronne blanche. Et lorsqu'il va atteindre l'âge de 39 ans, on va l'appeler celui qui a uni les deux terres. Alors, il y a toute une carrière, en fait, on va dire politique, diplomatique et militaire pour Mentouhotep II. On ne la connaît pas à 100%, malheureusement, on n'a pas sa biographie complète, mais on a quand même beaucoup d'informations pour savoir que, dans un premier temps, donc, il fait une unification, on va dire, militaire de l'Égypte. Et une fois sur le trône, il doit ramener la confiance des gens envers le système pharaonique parce que c'est ça, en fait, qui a mené la première période intermédiaire. C'est l'effondrement de cette confiance-là. Le pharaon n'est pas un dieu sur terre parce que si c'était le cas, on n'aurait pas les problèmes de sécheresse et les problèmes économiques qu'on a vécu. Alors, il faut ramener cette confiance. On ne met pas la hache dans le titre d'un monarque de droit divin, mais on va quand même davantage accentuer le fait qu'on a un homme, un être humain qui règne sur l'Égypte, mais qui est assermenté, en fait, par les dieux, choisi par les dieux. Et à sa mort, il va devenir un dieu et vraiment régner sur l'Égypte. On joue beaucoup sur ce type de propagande-là. Et sous Mentouhotep II, donc, on voit une augmentation de la prospérité parce qu'il va comprendre que les problèmes de sécheresse, on peut pallier ça grâce à des travaux d'irrigation. Et c'est comme ça qu'on va améliorer différentes techniques d'agriculture. Donc, on va augmenter les canaux d'irrigation, les bassins de réservation d'eau aussi. On va essayer d'aller dans des régions où il y a d'autres branches du Nil, notamment la région du Fayoum. Ça, je vous invite à regarder sur une carte géographique qui est encore, en fait, un jardin de l'Égypte aujourd'hui parce que à l'époque, vous aviez vraiment une branche, une petite branche du Nil qu'on appelle en arabe le Bahr Youssef, le canal canal de Joseph qui permettait là, d'avoir quand même l'eau, on va dire, limoneuse, donc riche en compost du Nil, mais sans avoir les débordements, en fait, qu'on va voir le long de la vallée du Nil. Alors, le Fayoum devient une région intéressante à partir de Montuhotep II et c'est sûr que l'agriculture va augmenter de manière exponentielle. On va avoir de plus en plus de récoltes de qualité et comme, bon, on va entrer dans une période de prospérité, on va aussi entrer dans une période d'échanges commerciaux, d'échanges aussi, on va dire, intellectuels, culturels, qui vont contribuer à l'augmentation des formes d'art, autant au niveau des peintures, des styles, des hiéroglyphes, mais de l'architecture aussi. Et c'est vrai que Montuhotep est associé quand même à une époque de grande construction. Donc, il veut remercier les dieux pour un retour à l'unification de l'Égypte, à la prospérité de l'Égypte. Donc, on construit des temples en l'honneur de plusieurs divinités. Alors, c'est un grand constructeur et rénovateur aussi de temples anciens de l'époque de l'Ancien Empire. Et donc, ses succès constants et rapides vont permettre aux gens de comprendre qu'ils vivent dans une période de paix. Et c'est pour ça que c'est un pharaon qui va quand même être assez célébré, je vous dirais, parce qu'on a retrouvé en fait une période paisible, agréable, prospère, qu'on n'avait pas connue là, depuis quand même plus d'un siècle, en fait, et même un peu plus là, du côté de la population égyptienne. Et il y a une région qui avait commencé à être en partie, conquise par l'Égypte à la fin de l'Ancien Empire, qui est la Nubie, comme je vous disais, bon, c'est le Soudan, puis une partie de l'Éthiopie d'aujourd'hui. Et bon, c'est sûr que pendant les troubles de la première période intermédiaire, bon, cette région-là est redevenue complètement indépendante. Et c'est une région où, à l'époque, on n'a pas encore les grands royaumes. Ça va commencer, en fait, l'histoire des royaumes du Soudan, le royaume de Kouch, si vous en avez déjà entendu parler, Kerma, où on va voir même des pyramides pour imiter un petit peu les anciens tombeaux des Égyptiens. Ça va être sur le point de commencer cette histoire-là, mais la Nubie est encore une région où on a des populations qui sont peut-être un peu plus semi-nomades. Et donc, Montuhotep s'intéresse à cette région-là, entre autres pour les mines d'or. Et c'est lui et surtout son fils qui va continuer son œuvre, Montuhotep III, qui vont faire la conquête d'une bonne partie de la Nubie et qui vont donc avoir ses réserves d'or sous la main pour pouvoir faire des échanges commerciaux, entre autres avec le Proche-Orient, plus particulièrement là, les régions du couloir syro-palestinien. Et donc, Montuhotep III, lui, va aussi être un grand constructeur. On a d'ailleurs une chapelle de Thoth, le dieu des scribes à Thèbes, qui, on le sait, a été construite sous les ordres de Montuhotep III. Il a un tombeau, lui, près de Deir el-Bahari. Donc, pour le Moyen-Empire, d'ailleurs, parlant des tombeaux, si on avait à trouver d'autres pharaons, d'autres tombeaux de pharaons, c'est la bonne époque parce que les pharaons ont compris une chose. Les pyramides, c'est comme mettre un gros X sur le tombeau du pharaon en disant, voici toutes mes richesses et venez me piller. Alors, ils vont se disperser, eux, plutôt que d'être enterrés tous au même endroit. Ils vont choisir des endroits très diversifiés et vont délaisser, en fait, les pyramides pour aller vers ce qu'on appelle des hypogées, comme dans la vallée des rois plus tard, en fait. Donc, on va creuser des tunnels, des couloirs, à même des falaises et des montagnes rocheuses pour construire des tombeaux qui vont être très, très bien cachés. Donc, ça explique un peu pourquoi. On a peut-être quelques petits trous, même chronologiques, là, dans la succession des pharaons du Moyen-Empire. Mais, donc, Montuhotep II, Montuhotep III, ces tombeaux-là ont été découverts, mais non, pas les momies qui probablement avaient été pillées depuis longtemps déjà, et les richesses aussi de ces tombeaux. Mais donc, si on revient au fils de Montuhotep II, il va continuer donc l'œuvre de son père. Il va commencer à comprendre que l'Égypte peut devenir intéressante. Ça bouge, en fait, en Méditerranée. Là, on commence à avoir beaucoup, 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 beaucoup de gens, nouveaux petits royaumes, des clans, des tribus qui pourraient avoir un intérêt, en fait, pour les richesses égyptiennes, pas juste les richesses agricoles, mais surtout ces richesses en minerais, entre autres en or. Alors, on va commencer à vouloir protéger davantage les frontières avec des fortifications. Parce que avant le Moyen-Empire, la protection, c'est le désert des deux côtés. Hein. C'est tellement des déserts arides qu'on se doute que personne ne va traverser ça pendant des jours pour venir attaquer l'Égypte, ou du moins se rendre en Égypte dans l'état d'attaquer. Mais là, on commence à avoir des doutes, donc des fortifications un petit peu partout pour protéger les frontières. Et c'est là qu'on va commencer aussi cette fameuse expédition au pays de Punt. Les Égyptiens vont nous parler souvent, en fait, de ce pays de Punt, mais comme ils sont très flous et très vagues dans leurs indications géographiques, souvent, en fait, ils nous nomment des étoiles, et vous savez que le ciel et tout ça, bon, ça a bougé. C'est très difficile d'identifier des zones, mais on suspecte que ce Le pays de Punt est probablement sur les rives africaines de la mer Rouge. Pourquoi? Parce que les produits qu'on va commencer à commercer avec cette région-là, ben, c'est de l'encens et surtout la gomme arabique ou ce qu'on appelle la gomme acacia. Et ça, c'est terriblement important parce que ça va servir de liant pour la peinture. Alors, c'est pas pour rien, en fait, que le Moyen-Empire va voir une explosion des arts visuels. C'est qu'on va pouvoir créer, toute une panoplie de coloris parce qu'on va pouvoir mélanger les couleurs et ça va tenir pour pouvoir peindre grâce à cette gomme arabique, cette gomme d'acacia. Donc ça, c'est quand même une découverte importante et ça va accentuer les contacts commerciaux entre l'Égypte et donc ces rives africaines de la mer Rouge. Et éventuellement, bon, on va continuer quand même aussi beaucoup d'échanges commerciaux, comme je vous disais, vers le couloir syro-palestinien. Alors si on fait un petit retour sur ces deux premiers pharaons du Moyen-Empire, les Montuatep 2 et 3, on a un resserrement du contrôle des pharaons là, sur le pays. On veut ramener l'unité. Pour ça, il faut aussi quand même avoir un contrôle sur les nobles et entre autres les nomarques qui gèrent les nomes parce que eux ont essayé de prendre le pouvoir pendant la première période intermédiaire. Alors, on veut resserrer le contrôle de l'État pharaonique sur le pays, augmenter la bureaucratie aussi pour essayer d'éviter les problèmes qu'on avait connus et donc éviter une crise. Et c'est quand même une longue période, le Moyen-Empire. Donc, c'est près de 400 ans. Environ, où on peut dire que ça va rester très stable. Alors, si on a d'autres pharaons connus, je ne ferai pas tous les pharaons du Moyen-Empire, mais les plus connus, les plus intéressants. Le prochain, c'est Amenemhat Ier, qui, lui, contrairement aux autres, va quand même oser se faire construire une pyramide. Donc, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas vu. On pense, c'est un peu flou, qu'il est peut-être l'ancien vizir d'un Montuatep IV. Donc, oui, il y en a eu un peu moins connu. Mais Amenemhat Ier est celui qui va, en fait, donner naissance à la 12e dynastie. Donc, c'est une nouvelle lignée, en fait, qui va arriver au Moyen-Empire et qui va régner pendant près de 200 ans. Donc, c'est quand même assez important. Et Amenemhat Ier, en fait, lui, va commencer à apporter des changements dans la gestion de l'État. Donc, ses ancêtres ont stabilisé le pays, augmenté la bureaucratie, réussi à améliorer la productivité agricole, donc il protégeait les frontières. Là, maintenant, il faut mieux gérer l'État parce qu'on commence à agrandir notre territoire aussi. Et on sait qu'il a construit une capitale au centre de l'Égypte qui se serait appelée Itijdawi. Et encore aujourd'hui, on a des doutes sur sa situation géographique. Il faut quand même comprendre que l'Égypte est un pays très habité. On ne peut pas décider d'arriver quelque part et de juste commencer à fouiller. Pour l'instant, donc, on n'a pas vraiment de vestiges majeurs qui pourraient nous dire « nous voici vraiment sur les ruines de l'ancienne ville plus administrative d'Amenemhat Ier, donc Itijdawi », parce que sous Montuatep II et Montuatep III, la capitale donc passe de Memphis, qui était dans le nord de l'Égypte, en Basse-Égypte, et on s'en va en fait en Haute-Égypte, dans le sud du pays, et c'est Thèbes qui est la capitale officielle. Mais Itijdawi va devenir ce qu'on appelle une capitale administrative, donc ça va être le centre de la bureaucratie et on l'a construite de ce qu'on en sait plus au centre du pays aussi. Et c'est sûr que c'est là, en fait, où on va avoir beaucoup de scribes qui vont superviser le développement agricole de la région. C'est de là aussi que vont partir la gestion des taxes, des impôts. On va essayer donc de mieux contrôler, en fait, l'administration des différentes régions de l'Égypte à partir de cette ville-là en particulier. Et on a aussi une augmentation du commerce parce que là, on a des richesses qu'on va échanger avec d'autres territoires, entre autres le bois qui nous intéresse avec ce qui est aujourd'hui le Liban, le fameux cèdre qui ne pourrit pas, entre autres pour les flottes de bateaux. On commence à faire beaucoup d'échanges commerciaux et parce que la prospérité de l'Égypte augmente, ben on a quand même une nouvelle classe moyenne qui émerge à cette époque-là, qui a quand même de bons moyens financiers grâce au commerce. Donc, ce soit une classe, on va dire, marchande et elle est friande d'un peu plus de luxe. Donc, on continue d'augmenter, en fait, les échanges commerciaux pour avoir différents produits, des épices, de l'encens, etc. Et c'est sous Amenemhat Ier qu'on commence aussi les premiers grands travaux du temple de Karnak. Karnak va devenir un immense complexe de temples, c'est gigantesque, surtout au Nouvel Empire, mais les travaux commencent au Moyen Empire sous Amenemhat Ier. Le but, construire différentes chapelles, différents temples, en fait, au même endroit pour honorer, remercier les dieux, et on va en faire ailleurs aussi. Donc, Amenemhat Ier ne construit pas que Karnak, il va continuer à les construire, entre autres, un temple dédié à Osiris, à Abydos, etc. Donc, on construit beaucoup pour remercier remercier les dieux pour cette période de grande prospérité. Mais on commence à réaliser, et donc Montuotep III l'avait déjà compris, qu'il y a différentes population qui, entre autres, dans le sud, proche de la Nubie, mais aussi là où se trouve aujourd'hui la bande de Gaza, la Palestine, qui commence à avoir des intérêts peut-être pour les richesses égyptiennes, puisque plus de commerce, donc on commence à voir cette richesse-là, et on veut des contrôles plus importants proche des frontières, surtout près de la Nubie, parce que je vous rappelle que c'est là qu'on a des mines d'or quand même assez importantes. Et Amenemhat Ier, pourquoi on en parle? C'est qu'il a fait quelque chose d'assez intéressant. À la 20e année de son règne, il a officiellement associé son fils au trône pour que le peuple le connaisse, l'accepte et réalise qu'il le forme, en fait, à devenir pharaon, donc pour éviter que la succession se fasse... Enfin, il veut que la succession se fasse sans anicroche, que ça aille bien. Et comme je vous disais, bon, c'est quand même une dynastie qui va réussir à survivre pendant 200 ans, ce qui est quand même pas rien. Pourtant, malgré tout, Amenemhat Ier meurt assassiné, mais on sait pas vraiment pourquoi. C'est très flou. Enfin, il nous manque trop de littérature. Est-ce qu'il a provoqué la révolte d'une partie de la noblesse? Est-ce qu'il y a des gens qui étaient mécontents de sa gestion du pays ou de l'association de son fils directement au pouvoir? On ne le sait pas, mais c'est un des rares pharaons, il y en a quelques-uns, là, mais pour lequel on a vraiment des témoignages directs d'un assassinat. Alors, dans les autres pharaons assez intéressants, ben, Sésostris Ier. Là, ici, c'est probablement un des grands pharaons du Moyen Empire. Ici, je vais vous donner ses dates de règne pour que vous puissiez me suivre, continuer à me suivre dans le temps. Donc, on va avoir un pharaon qui a régné de 1956 à 1911 avant notre ère. Et lui, il a compris qu'il y avait des menaces aux frontières et qu'il doit se faire connaître, qu'il doit user de diplomatie aussi. Alors, c'est un règne qui est beaucoup caractérisé par la politique extérieure. Donc, on va faire la conquête de ce qu'on appelle la Basse Nubie. Donc là, je vous parlais de l'émergence du royaume de Kouch. C'est là que ça se passe. Donc, on va aller conquérir ce territoire-là, toujours dans le but de mieux protéger les frontières de l'Égypte et de garder le contrôle sur des mines d'or, entre autres dans le désert oriental. On va établir des contacts commerciaux avec un royaume émergent, qui est le royaume de Kerma. Donc, Kouch, Kerma, ce sont vraiment donc des territoires du Soudan actuel. Vous avez des vestiges absolument fabuleux, mais qui sont menacés par les changements climatiques par ailleurs. Et on va aussi commencer à exploiter des carrières de pierre, parce qu'on construit énormément, donc on a besoin de pierre pour les constructions. Et c'est à cette époque qu'on va commencer le contrôle des oasis du désert occidental. Donc, si vous vous rappelez, là, quand on avait fait la géographie un peu de l'Égypte ancienne, c'est 5 oasis habitables dans le désert occidental. Si on part du sud, en fait, Karga, Daklé, Farafra-Baharia et Siwa, qui est celle qui est la plus proche, en fait, de la mer Méditerranée, mais qui est quand même, en termes géographiques, la plus éloignée de la vallée du Nil, donc très loin dans le désert. Et on va vraiment établir des contacts commerciaux, des ententes commerciales et diplomatiques avec différentes populations qui habitent les territoires de la Syrie et de la Palestine actuelle. Alors, diplomatie sous Sésostris aussi, ça devient très, très important. Et ce sont des efforts qui vont relativement porter fruit parce que l'Égypte va commencer à jouer un rôle assez important au Proche-Orient. On voit même à Byblos, en fait, qu'on utilise des hiéroglyphes, mais d'un point de vue artistique. Donc, ce n'est pas pour l'écriture, mais on aime le style de l'écriture égyptienne. On l'utilise artistiquement parlant. Donc, les liens avec, en fait, les territoires qui seront ceux des Phéniciens et qui sont aujourd'hui les territoires, entre autres, du Liban actuel, deviennent très, très importants à cette époque-là. Comme je vous disais, on a un intérêt marqué pour les bois qui permettent de faire de la menuiserie, surtout construire des bateaux, donc le fameux cèdre du Liban. Et en échange, bon, on exporte de l'or et on exporte du lapis-lazuli. Et c'est sûr que graduellement, ben, on améliore les techniques de construction de bateaux. On a des bateaux qui vont pouvoir faire de la plus longue distance. Les Égyptiens deviennent meilleurs aussi en navigation à l'extérieur de la vallée du Nil, donc du fleuve, donc de la navigation en mer. Et les flottes navales vont servir à protéger aussi les frontières de l'Égypte d'un point de vue maritime. Donc ça devient quand même très, très, très important aussi. Et c'est à l'époque du Moyen-Empire qu'on va commencer à sécher des zones marécageuses dans cette fameuse région qui est le Fayoum. On n'est vraiment pas très loin, en fait, du Caire actuel, mais on est un petit peu plus dans le désert. Et c'est là qu'on va commencer à exploiter cette branche du Nil là, qui s'appelle le Bahr Youssouf, parce qu'on comprend que en faisant ça, on peut arroser, profiter de l'eau du Nil sans nécessairement devoir attendre qu'il y ait les inondations, que l'eau se retire. On peut contrôler les arrosages. Donc ça devient terriblement intéressant. Et donc, c'est comme ça qu'on va avoir un développement de l'Égypte assez intéressant tant du point de vue maritime, des technologies hydrauliques, assez simples encore, mais quand même, on commence à mieux comprendre l'importance de faire des canaux, des bassins de réservation et comment mieux utiliser les arrosages aussi pour certaines cultures. Donc, l'agriculture étant plus prospère, ben, l'économie égyptienne va très, très bien aussi. On va commencer néanmoins, comme toute époque, à voir certains pharaons qui vont avoir plus de difficultés, qui n'ont peut-être pas toujours, soit les connaissances ou, on va dire, la colonne vertébrale pour gérer un pays. Et vers la fin, en fait, de la dynastie des Aménémates, ben là, on va commencer à avoir des problèmes de succession et des problèmes aux frontières. L'Égypte est peut-être plus fragilisée, sans même avoir un problème aussi même d'héritier mâle, parce qu'on a même une femme là, qui va diriger très, très brièvement à la mort de son mari qui est Aménémate 4. Elle s'appelle Sobek Neferu. De ce qu'on en sait, elle aurait dû gérer un peu là, la mort de son mari le temps là, que son fils, pas son fils, mais en fait qu'on trouve un successeur, pardon, pour gérer le pays. C'est une période un peu floue, là, mais donc on aurait une femme, Sobek Neferu. On pense qu'elle a peut-être tenu le pouvoir 2 ans, 3 ans, et elle marque un peu la fin de la lignée. Donc, il n'y a pas d'héritier mâle à ce moment-là, et elle n'arrive pas à faire la transition vers un successeur, et là, on arrive vers une nouvelle crise politique là, pour le Moyen-Empire. Et encore une fois, ben, ça va faire en sorte que vous allez avoir des nomarques, donc des hommes lettrés qui gèrent, en fait, des régions un petit peu partout, donc des nomes en Égypte qui vont réessayer, je vous dirais, là, de prendre un petit peu le pouvoir, jusqu'à temps que d'autres pharaons reprennent la situation en main et ramènent en fait une centralisation du pouvoir royal. Donc c'est une période un petit peu plus floue quand on arrive à peu près là, au tournant des années 1900 avant notre ère. Mais à un moment donné, on va trouver des solutions pour mieux partager le pouvoir entre le pharaon et les fameux nomarques. Et ces solutions-là vont commencer à être trouvées sous le règne de Senseret III, on est rendu dans les années 1870-1830, où les nomes vont être supervisés, regroupés en provinces, en fait, 3 grandes régions, donc le nord, la moyenne Égypte, le sud de l'Égypte, où on va avoir, en fait, des centres administratifs pour mieux superviser tout ce qui se passe. Donc, il y a une petite période un petit peu plus chaotique, plus floue aussi au niveau de la documentation. Une femme qui aurait essayé de tenir tout ça entre ses mains en l'absence d'héritier, le temps d'essayer peut-être d'en trouver un. Et donc, cette période un petit peu plus chaotique ben, va nous mener vers ce qu'on appelle la 13e dynastie qui va régner à peu près 150 ans jusqu'à la fin, en fait, là, du Moyen-Empire où... je vous dirais que là, on a des fois des trous quand même documentaires assez importants. Donc, c'est plus difficile de connaître les pharaons, ce qu'ils ont fait à cette époque-là. On finit toujours par faire des découvertes intéressantes sur le Moyen-Empire grâce à des tombeaux, des inscriptions. Moi, je suis toujours positive. On va avoir encore plus d'informations intéressantes dans les prochaines années au gré des découvertes archéologiques. Mais on voit donc qu'on a quand même une bureaucratie qui est fonctionnelle. L'Égypte reste unifiée sous la 13e dynastie. Mais il semble y avoir quand même un affaiblissement du pouvoir pharaonique. Donc, on a des pharaons qui, au niveau peut-être des lois, de la gestion, ont moins de pouvoir que les nomes et les prêtres, même à certains moments. Et cette faiblesse peut-être bureaucratique fait en sorte qu'on n'est pas prêt à faire face à une invasion étrangère, qui est l'invasion d'un peuple qui vient du couloir syro-palestinien, plus particulièrement on croit de Palestine, mais comme ils ne nous ont pas laissé d'écriture et peu de vestiges archéologiques hors Égypte, on les connaît très très mal, mais on les appelle les Hyksos. Et ce sont les Hyksos, en fait, qui vont mettre un terme au Moyen-Empire en faisant la conquête d'une bonne partie, en fait, du nord et même du centre de l'Égypte, et qui vont réussir à contrôler cette partie-là du territoire pendant un bon bout de temps, et qui vont reléguer, en fait, l'administration égyptienne au sud du pays. Donc ça devient vraiment très particulier. Et ça fait en sorte qu'on va comprendre, en fait, que on aurait peut-être dû mieux se militariser pour faire face à des armées qui, elles, étaient très avancées et qui ont complètement déstabilisé, en fait, le peu d'armées que l'Égypte avait à cette époque-là. Alors ça devient quand même un problème et c'est un peu la raison pour laquelle on n'arrive pas, en fait, à faire face aux Hyksos et qu'on perd, en fait, une bonne partie de territoire. Et il va falloir trouver une façon de se constituer une armée pour le récupérer, ce territoire-là, qu'on récupérera quand commencera le Nouvel Empire. Les Hyksos qui vont prendre le contrôle et qui vont amener une période très de métissage, on va dire de troubles, oui, politiques, mais qui vont aussi forcer les Égyptiens à mieux se militariser, à penser à des stratégies militaires, à étudier les techniques aussi militaires de d'autres régions. Donc, il y a quand même des impacts, on va dire, positifs malgré une invasion à ce moment-là. Et on va donc régner à partir de Thèbes sur le sud de l'Égypte. On va avoir une succession un petit peu plus complexe. À ce moment-là, on ne connaît pas nécessairement tous ceux qui vont gérer le sud de l'Égypte pendant que les Hyksos, eux, vont se trouver dans le nord du pays. Mais néanmoins, il reste une forme d'administration là, dans le sud à partir de ce moment-là. Et donc, ça nous amène à parler, avant de retourner à la fin du Moyen-Empire, un peu plus de la société des arts, parce que le Moyen-Empire reste, comme je vous disais, une période de révolution culturelle assez intéressante. En fait, on va commencer à développer les routes sud-sahariennes et africaines. Ils transitent beaucoup, beaucoup, beaucoup de produits, en fait, en Afrique, et qui passent par l'Égypte, et que l'Égypte va même commercer vers le monde méditerranéen. On peut penser à des produits de luxe comme l'ivoire, l'ébène, certaines peaux d'animaux aussi, de l'or, inévitablement, du lapis-lazuli, et même des pierres, parce que d'autres régions, comme le Liban, vont s'intéresser à certaines pierres égyptiennes qui sont très belles. Le grès rose, en particulier, attire énormément. Mais donc, si on fait un portrait là, de la société, de la culture de cette époque en Égypte, au-delà, donc, de la découverte de la gomme arabique, on a vraiment une explosion des arts visuels. Parce que les arts visuels, ce ne sont plus juste des outils de propagande du pouvoir royal. La population générale veut du beau, de l'esthétisme, que ce soit dans la structure des maisons, l'organisation des jardins, même pour des gens de la classe moyenne ou des paysans, on va s'en aller vers une forme d'esthétisme. Et dans les thèmes artistiques aussi, dans les arts visuels, on va valoriser de plus en plus le quotidien. Ce qui avait déjà commencé un peu à la fin de l'Ancien Empire. Alors, avec l'émergence d'une classe moyenne, bien, on a des gens qui s'intéressent à l'art, qui veulent être représentés aussi. Et c'est pour ça que le Moyen Empire en ceci de particulier, si vous avez la chance un jour de voir une section qui est réservée à cette époque-là ou une exposition réservée à cette époque-là, le Metropolitan Museum de New York, il y a quelques années, en avait eu une absolument magnifique, c'est qu'on va s'intéresser au bois parce qu'on en commerce, entre autres, avec le Liban. Et quand on commence à utiliser la gomme arabique pour pouvoir multiplier les coloris, le bois a cet avantage qu'il absorbe dans la peinture, les couleurs ressortent très très bien, des fois plus que sur la pierre. Alors on a beaucoup en fait de statues de pharaons, d'objets funéraires qui représentent le quotidien, mais tout ça est en bois. Donc on va voir en fait dans les tombeaux petites représentations des menuisiers au travail, de femmes qui brassent la bière, de porteuses d'offrandes, grandeur nature, en bois peinte. Et quand le désert a réussi à bien préserver ces peintures-là, ben c'est absolument magnifique du point de vue des couleurs. Mais parce qu'on associe souvent l'Égypte à aussi de l'or, des choses comme ça, on dirait que pour le Moyen-Empire, cette utilisation du bois fait en sorte que les gens ont moins d'intérêt pour les arts à cette époque-là. Mais pourtant, comme je vous dis, c'est une explosion en fait de la couleur, de différents thèmes du quotidien. On n'a jamais autant représenté en fait les différents métiers de l'époque de l'Égypte ancienne qu'au Moyen-Empire. Alors ça, c'est terriblement intéressant. On va essayer aussi d'être peut-être un peu plus proche du réalisme à l'époque de l'Ancien Empire. On a ce qu'on appelle un style classique. Donc, on peut remarquer que les femmes, surtout quand elles sont des hautes classes, sont très élégantes avec des robes un peu sexy même, mais très, très jolies, très stylisées. Les visages sont aussi beaucoup plus personnalisés. On voit que les mouvements aussi, grâce au bois, c'est plus facile en fait créer du mouvement, de la souplesse que ce qu'on pourrait faire dans de la pierre. Parce qu'on n'est quand même pas rendu du côté de l'Égypte ancienne, je vous dirais, aux proportions et à la finesse peut-être de ce qu'on va voir avec le marbre du côté de la Grèce antique. Donc, le bois permet davantage cette souplesse-là. Et on va même voir aussi des pharaons qui vont accepter de se faire représenter vieillissant. cette idée que le pharaon, il est un être humain choisi par les dieux, non pas tant un dieu sur Terre maintenant. Et si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir, en fait, les représentations de Sésostris III, qui se fait représenter lorsqu'il est jeune, mais on le voit aussi vieillissant. C'est un des rares pharaons, en fait, qu'on va voir représenter avec des rides, les traits qui s'affaissent un petit peu. Et ça, c'est terriblement intéressant et beaucoup plus humain. On a vraiment l'impression de faire face à quelqu'un qui a vraiment vécu, que lorsqu'on voit, en fait, des sculptures de granit, toujours avec le style, j'appelle, du sphinx, un petit peu, où on n'est pas capable de distinguer un pharaon de l'autre. Donc, le Moyen Empire a cet avantage-là d'humaniser les traits, d'aller vers une forme de réalisme qu'on n'avait pas vraiment vu à l'époque de l'Ancien Empire. C'est l'époque aussi où vous allez voir les statues cubes qui sont assez intéressantes, qui sont souvent, en fait, pour les scribes, les fonctionnaires, pour montrer, en fait, leur position dans la gestion de l'État, le fait qu'ils sont au service de l'État. Il y a rarement des signatures, d'ailleurs, sur ces œuvres-là. Et le Moyen Empire est aussi une grande époque de tout ce qui est l'orfèvrerie. Le lapis lazuli, la cornaline, la faïence. On va commencer à faire ces magnifiques bijoux et colliers où vous avez ce qu'on appelle la technique du cloisonné. Donc, où on va croiser, en fait, des bandes d'or dans lesquelles on va faire des insertions de pierres précieuses et semi-précieuses. D'ailleurs, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir un des diadèmes les plus connus qui utilise cette technique-là. C'est le diadème de la princesse Mereret, donc je peux vous l'appeler ici si vous voulez le chercher sur internet, Mereret. Elle était la fille de Sésostris III, donc ce diadème-là vous donne une idée là, de cette technique en joaillerie qui est vraiment très, très, très intéressante. Et pour terminer, c'est aussi une grande époque de l'architecture militaire d'une part, parce qu'on commence à faire des fortifications et des forts pour mieux garder les frontières, surtout dans le sud du pays, donc vers ce qui est aujourd'hui le Soudan, et on va commencer quand même à faire des murs très épais, des fossés, des tours, des bastions, des portes fortifiées. Donc ça, on n'avait pas vu ça beaucoup encore pour l'Égypte. Ça démontre quand même une volonté de mieux protéger le territoire, mais malheureusement, quand l'administration est peut-être pas ce qu'il y a de plus solide et que l'armée n'est peut-être pas prête à faire face à des armées beaucoup plus puissantes comme celle des Hyksos, ça va mener néanmoins à une invasion qui va être assez douloureuse, je vous dirais, pour l'Égypte. Donc, on reparlera de l'invasion des Hyksos quand je ferai le Nouvel Empire, parce que c'est quand même toute une toute une histoire. Mais sachez que les Hyksos vont créer un choc des cultures. Là. Ils vont construire une capitale qui a été identifiée il y a quelques années dans le delta. Elle va s'appeler Avaris et c'est de là que les Hyksos vont gérer, en fait, leur portion, en fait, de l'Égypte. Et comme je vous disais, les Égyptiens, eux, vont garder Thèbes et le sud et donc les pharaons et chefs d'État qui vont essayer de tenir la portion égyptienne de leur pays et d'essayer de reconquérir, en fait, ce qu'ils ont perdu, eux vont régner à partir de Thèbes, qui est la grande capitale maintenant de l'Égypte ancienne et qui va le rester jusqu'à l'époque grec. Donc, tant qu'Alexandrie n'est pas fondée, c'est Thèbes qui va demeurer maintenant la grande capitale de l'Égypte ancienne. Alors, si vous voulez en savoir plus sur le sujet de ce cours, je vous suggère comme lecture deux livres en anglais, je m'en excuse, mais pour cette période-là, ce sont, à mes yeux, les meilleurs. Donc, vous avez « The Rise and Fall of Ancient Egypt », ça a été écrit par Toby Wilkinson, c'est récent aussi, et c'est paru chez Random House. Et vous avez War in Ancient Egypt par Anthony J. Spalinger, et ça c'est paru chez Blackwell, qui est aussi très très intéressant si vous voulez comprendre l'évolution de l'armée égyptienne, qui est très particulière si on compare à la Mésopotamie ou à d'autres régions du monde. Mésopotamie, où on retournera faire un tour dans les prochains cours. Et donc, Si vous souhaitez suivre mes actualités en histoire, en archéologie, sur les réseaux sociaux, je vous rappelle que j'ai toujours deux comptes Facebook. Donc, Evelyne Ferron, historienne, qui est comme un peu mon compte central, et ma page Historiophile, qui est un compte d'actualité quotidienne en histoire, en archéologie. Mais je fais aussi des actualités sur Blue Sky, qui est en train de devenir mon fil de presse principal maintenant. Et je vous rappelle que si vous appréciez ces petits cours d'histoire, n'hésitez pas à laisser des étoiles sur les plateformes et à partager les épisodes afin que d'autres personnes les découvrent. Et moi, je vous dis à bientôt pour un prochain cours, en avril, et on va aller complètement ailleurs, donc ce sera un cours thématique pour le prochain. Alors, je vous dis à bientôt!